18h à Paris, 19h à Jérusalem, 16h en temps universel, vendredi 25 avril. C'est l'heure d'un nouveau journal.
Le journal. En français facile. Alban Le Prince.
Avec à la une, la France au secours des Gazaouis. Ils sont 115 à avoir atterri à l'aéroport parisien d'Orly tout à l'heure. RFI a suivi certains d'entre eux. Le bras de fer continue entre New Delhi et Islamabad après la mort de 26 touristes mardi dans le Cachemire indien. L'Inde donne jusqu'à dimanche aux Pakistanais pour quitter son territoire, sauf exception. Dans ce journal également, les fidèles qui n'ont plus qu'une heure pour se recueillir devant le cercueil du pape François avant ses funérailles prévues demain matin, place Saint-Pierre à Rome, en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de nombreux responsables politiques. Et puis la question de la santé mentale des jeunes au cœur de l'actualité française. Après une attaque au couteau hier dans un lycée de l'ouest de la France qui a fait un mort et trois blessés, le suspect, un élève, a été hospitalisé. Ils ont été accueillis sous les applaudissements. Un groupe de 115 personnes évacuées de Gaza par la France est arrivé ce matin à l'aéroport d'Orly. Cela faisait un an et demi qu'elles en avaient fait la demande. Bonsoir Alice Froussard.
Bonsoir.
Vous étiez avec eux tout à l'heure lorsqu'ils ont retrouvé leurs proches, leur famille.
Oui, et sur place, il y avait des applaudissements timides, mais surtout des larmes, des scènes d'embrassade, autrement dit des personnes qui se prenaient dans les bras après des mois de souffrance, d'attente et plusieurs faux espoirs. Parmi eux, il y avait Mohamed, un musicien de Gaza, qui retrouvait sa femme et ses trois enfants. Il ne s'était pas vu depuis 617 jours. C'est un miracle, nous a-t-il confié. Ces 115 Gazaouis arrivés en France ont donc pu retrouver leurs proches. Ils avaient d'abord reçu un SMS du consulat français à Jérusalem avec un point de rendez-vous. Ils ont été évacués de la bande de Gaza ravagée par la guerre en bus direction la Jordanie pour y récupérer des visas avant de prendre un avion vers la France. Ce sont des personnes qui ont demandé une procédure de réunification familiale, c'est-à-dire qui ont pu rejoindre les membres de leur famille ou qui ont un lien particulier avec le pays. Des étudiants, des chercheurs, des artistes lauréats du programme PAUSE, des membres de l'Institut français de Gaza. Tous avaient cependant une pensée émue, presque coupable, pour tous les Gazaouis restés derrière, ceux qui n'ont pas pu fuir cette guerre.
Merci Alice Froussard. Et à Gaza, justement, où aucune aide humanitaire n'arrive depuis le 2 mars, le Programme alimentaire mondial de l'Organisation des Nations Unies assure aujourd'hui avoir épuisé tous ses stocks. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les frappes israéliennes ont fait 78 morts ces dernières 24 heures. L'Organisation des Nations Unies qui appelle à la retenue maximale entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays ont commencé mardi un bras de fer après une attaque qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien. Des échanges de tirs ont eu lieu ce matin le long de la frontière et n'ont pas visé la population civile selon un haut responsable de l'administration du Cachemire pakistanais. New Delhi pointe la responsabilité d'Islamabad qui à son tour demande des preuves. Des diplomates ont été expulsés, les frontières ont été fermées. Bonsoir Nicolas Roca.
Bonsoir Alban.
Les Pakistanais présents en Inde doivent d'ailleurs quitter le territoire avant dimanche, sauf exception.
Oui, mais tout reste très flou. Déjà, il est impossible de savoir combien de Pakistanais vivent réellement en Inde. Beaucoup sont entrés illégalement, mais surtout, il n'y a pas eu de recensement, c'est-à-dire de décompte de la population en Inde depuis 2011. Tous les Pakistanais, vous l'avez dit, ne sont pas concernés par l'expulsion. D'abord, le ministère des Affaires étrangères indien a annoncé l'arrêt de toutes les procédures de visa et la annulation de tous ceux déjà acceptés. Quelques heures plus tard, finalement, il a été précisé que l'expulsion ne concernait pas les Pakistanais hindous avec un visa long séjour, une mesure qui correspond aux idées très nationalistes du parti du Premier ministre indien Narendra Modi, qui se présente en défenseur de cette minorité. Au Pakistan, où l'islam est majoritaire. Tous les Pakistanais musulmans sont donc censés partir d'ici dimanche, comme tous ceux qui ont un visa d'affaires, d'étudiants ou encore de journalistes. Autre exception, ceux avec un visa médical, ils devront partir d'ici mardi. Certains Pakistanais sont déjà partis, mais sans vol direct, ils doivent passer par la route, par le seul poste frontière entre les deux pays, ou bien faire une escale dans un autre pays.
Nicolas Roca. La place Saint-Pierre de Rome, désormais fermée au public. C'est dans 2 heures maintenant que le cercueil du pape François doit être scellé, fermé. Depuis mercredi matin, plus de 150 000 fidèles sont venus se recueillir devant la dépouille, le corps du souverain pontife. Demain, une cinquantaine de chefs d'État assistera à ses funérailles. Plusieurs dirigeants politiques également, comme Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Et cela peut surprendre car le pape n'était pas populaire auprès de l'extrême droite, Raphaël Del Volvé.
En 2023, peu après la venue du souverain pontife à Marseille, marqué par un discours pour les migrants, Jordan Bardella affichait un net désaccord.
Est-ce qu'il est argentin et qu'il n'a pas conscience du problème de l'immigration aujourd'hui en Europe qui déstabilise les sociétés européennes.
Et ce vendredi matin encore, le député RN Sébastien Chenu, même en concédant des qualités à François, restait critique sur RTL.
Un pape, moi je l'ai dit, d'humilité, de charité, un pape aussi qui a fait culpabiliser l'Occident sur l'accueil des migrants, un pape qui faisait de la politique.
Mais alors, pourquoi le patron du Rassemblement National, ni croyant ni baptisé, se rend devant le catafalque papal? Alors même que Marine Le Pen a brillé par sa sobriété avec 3 petites lignes d'hommage sur X lundi à l'annonce du décès du pape. Au-delà des désaccords de fond, les opportunités politiques ne manquent évidemment pas. Jordan Bardella, possiblement contraint à une candidature présidentielle en 2027, se cherche une stature internationale et se retrouvera ainsi ce samedi sur le même lieu que l'Américain Donald Trump, le Français Emmanuel Macron, l'Argentin Javier Milei ou encore l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. La volonté de séduire l'électorat catholique ne peut être écartée non plus. En juin 2024, 37% d'entre eux avaient voté pour la liste Rassemblement National aux élections européennes.
Raphaël Del Volvé, et à l'occasion des obsèques du pape François, édition spéciale demain sur RFI, entre 8h et 10h, temps universel. La discussion a duré 3 heures. Vladimir Poutine, le président russe, a reçu aujourd'hui au Kremlin Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump. Tous deux ont discuté d'une proposition américaine pour mettre fin à la guerre en Ukraine et ont évoqué de possibles négociations directes entre Moscou et Kiev, même si les négociations semblent pour l'instant dans l'impasse. Dans un entretien au magazine Time paru aujourd'hui, Donald Trump, le président américain, a une nouvelle fois répété que l'Ukraine était responsable du conflit et que la Russie garderait la Crimée qu'elle a annexée en 2014. En France, des dizaines de lycéens rendent hommage depuis ce matin à leurs 4 camarades victimes d'une attaque au couteau à Nantes, dans l'ouest du pays. L'une est décédée, les 3 autres ont été blessés. Le suspect, un élève qui a été interpellé, a de son côté été hospitalisé après un examen psychiatrique. Pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations, mais ce drame a conduit, poussé le Premier ministre français à faire des annonces. Il souhaite par exemple installer des portiques de sécurité aux abords des collèges et lycées, mais cela ne suffira pas selon Hélène Lobignat. Elle est la présidente d'une association de parents d'élèves.
Toutes les initiatives sont bonnes. Maintenant, est-ce que ça réglera pour autant le problème de fond pour tous les jeunes? C'est-à-dire qu'il faut peut-être s'attaquer plus au problème de la santé mentale des jeunes et au fait qu'il y ait un mal-être. Il faut peut-être prendre les choses à la racine. Alors, il y a certains établissements qui le font et commencent à le faire parce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai souci. Donc, il y a, par exemple, des rencontres parents-école sur tout ce qui est réseau, écran, etc., qui sont dispensé par l'appel. Chaque chef d'établissement est à même, avec l'ensemble de sa communauté éducative, de pouvoir mettre en place ou des lieux d'écoute, peut-être des lieux de parole. Est-ce que au cours des vies de classe, il peut pas y avoir des temps de parole pour les élèves, pour pouvoir un petit peu discuter avec leurs professeurs? Ça pourrait être peut-être une idée.
Hélène Lobinia, présidente d'une association de parents d'élèves jointe pour RFI par Amélie Beaucourt. Il est 18h09 à Paris, 16h09 en temps universel. Tout de suite sur RFI, le Café des Sports avec Éric Mamruth. Si vous souhaitez réécouter ce journal, vous pouvez le faire sur françaisfacile.rfi.fr ou bien sur l'application RFI.